après un hiatus de quelques semaines, nous sommes de retour aujourd'hui et puisqu'on ne s'est pas parlé depuis plusieurs semaines, on a décidé de faire le sujet le moins original de l'histoire de Ménage à deux, c'est-à-dire la suite de la listre. La listre. J'ai encore dit, là, je l'ai dit par erreur pour vrai.
Tu dis ça tout le temps, la listre?
La listre, oui. La liste de BGG. Donc, aujourd'hui, 800 à 700. Alors, ici Luc.
Et ici Jake.
Et vous écoutez notre podcast de jeux de société.
Ménage à deux.
Jacques!
Luc!
Comment ça va?
Luc de Luc, c'est amour.
Oui.
Ça va bien. Et toi? En fait, ça va très, très bien. Sais-tu pourquoi?
Quoi?
Parce que je bois un Zevia, le commanditaire de notre podcast. Aujourd'hui, la saveur du jour, c'est raisin.
Raisin? Ouais, mais moi, la saveur du jour aujourd'hui, c'est racinette crémeuse.
Et voilà. J'adore tout ce qui est crémeuse.
Donne-moi des exemples.
La racinette.
Ah, ça c'est... Chaque fois que je parle de racinette dans la vie, je me dis...
La soupe.
Il n'y a rien comme une racinette crémeuse.
Les graines.
Fuck.
Ah, ça part bien.
Ça commence bien, ça part Jay. Bien. Écoute, Jay, en parlant de bien partir, j'aimerais lire des commentaires qu'on a reçus de deux auditeurs, en fait, en particulier.
Oh boy, here we go.
Ben, okay.
C'est toujours des insultes envers
moi. On a reçu un message d'Yvon Daou qui nous disait « J'écoute tous vos podcasts, j'apprends sur plein de jeux, mais vous me faites vraiment rire. Des fois, ça part n'importe où vos affaires et je suis crampé. » C'est pour ça que, puisque tu as dit des graines crémeuses, je me suis dit que Yvon aimerait ça.
Ben, on a-tu besoin d'expliquer ça aux Français, la France, là, ou ils vont-tu catcher ça?
Des graines, comment je dirais? C'est que, ben, je vais vous expliquer, ceux qui sont pas Canadiens. Au Canada, on est muni de plus petits engins que vous, donc on appelle ça des graines. Et voilà. Donc,
ouais, ben,
c'est
ben,
ça. T'sais. C'est ça.
Il y a peut-être une étude quelque part là-dedans qui prouverait ça aussi.
Ouais. On sait pas. En tout cas, Yvon, dans son commentaire, disait aussi, dans le dernier podcast, on parlait du trou de Luc. Et il a dit, je peux pas croire que vous avez dit ça. Puis là, moi, je me souvenais pas qu'on ait dit ça. Puis il m'a indiqué à quel endroit dans le podcast on disait ça. Puis là,
dans le trou.
Exactement. Puis j'ai écouté et j'ai fait, oui, c'est vrai qu'on dit tout ça. Puis il dit, en tout cas, juste pour vous dire de pas vous censurer.
Moi, je serais surpris qu'on n'ait pas dit. On n'a pas parlé de ton trou.
C'est vrai, c'est vrai.
De cul.
En tout cas, il voulait juste nous dire de ne pas nous censurer. Il trouve ça drôle. Bonne continuation. Ben merci, Yvon, de nous écouter. Un autre auditeur qui nous écoute, Martin Bélanger, qui écrit, il dit « Bonjour, dans votre podcast, vous avez quelquefois fait la mention de jeux que vous avez trouvés dans un Goodwill ou au Village des Valeurs. »
Oui.
Il dit « Alors, ou alors de jeux que vous avez l'intention d'aller y porter. » Je travaille d'un côté d'un village des valeurs, littéralement la boutique à côté, et j'y arrête souvent pour vérifier les jeux. Je me suis dit que ce pourrait être intéressant de vous faire part de tous les jeux de qualité que j'ai achetés depuis les trois dernières années en excellent état.
Ben oui.
C'est un peu aussi pour braguer. Il voulait faire un brag.
Se vanter, on dit en français.
Donc voilà la liste de Martin. Ouais. Il dit King of Tokyo, il a acheté 9.
Wow.
Istanbul.
Ah, est-ce qu'il y a des prix associés, non?
Des quoi?
Des prix associés?
Pas cher.
Ben,
mais je pense, moi, le plus cher que j'ai vu un jeu au Village des Valeurs, c'était 10$. Personnellement.
Mais c'est ça que je dis, comme Village des Valeurs, puis je m'excuse, Martin, je te coupe là-dedans dans ta liste. Mais le Village des Valeurs, ça sent pire. Là, il commence à être wise, tu sais, comme on achète quelque chose, puis comme le prix est raisonnable.
Ouais.
À la place, t'es comme holy shit, quel retrouvaille.
Ouais, c'est ça.
J'étais curieux, mais c'est pas grave, c'est pas cher.
Ben Martin, si tu nous écoutes, tu peux nous envoyer un message pour nous dire quel prix.
Mets à jour ta liste.
C'est une très belle liste. Alors,
j'adore
donc, ça. King of Tokyo l'a acheté 9, il a acheté
crémeuse.
La crémeuse, la racinette crémeuse, la graine crémeuse. Istanbul, Dixit, il a acheté Mémoire 44. Toi aussi, tu as trouvé Mémoire 44
au village. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Yinch, je connais pas Yinch.
Oh, c'est un de ces jeux-là avec 5 lettres qui font le nom, je pense, non?
Ouais, comme, ouais, il y a beaucoup de jeux. Dixit aussi, c'est un mot de 5 lettres qui fait le nom.
Non, mais c'est comme un genre de série, là, je pensais.
Okay. Ensuite, il a acheté 2 fois Stay Cool. Il a trouvé...
Stay Cool?
Stay Cool. C'est un jeu du scorpion masqué. T'as jamais vu?
Ah oui! Ah oui, 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 c'est
avec
vrai.
Une sorte de bombe sur le dessus, là.
Oui, 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 c'est ça.
Il a acheté Magic Maze. Il a trouvé Les Aventuriers du Rail Europe 9.
No way! Ouais. Comme, j'essaie de ne pas apprécier chaque jeu de réagir pour pas... Mais
ouais,
déjà, c'est vraiment bon. Mais ça fait 3 ans, hein, genre, on avoue.
Ouais. Évolution. Les piliers de la Terre, donc Pillars of the Earth. Mysterium. Ça, c'est quand même incroyable. Timeline, 3 fois. Il a trouvé Black Stories 2 fois. Dominion Second Edition. Ensuite, il a trouvé Space Hulk, l'édition de 89, en bon état. Ensuite, il a trouvé Quarto. Villainous avec une extension. Et Clash of Cultures. Donc, quand même, et là, il nous écrit « Sur ce, bonne continuité. J'aime beaucoup votre podcast. » Alors, ben, écoute, Martin, on t'aime beaucoup. Nous aussi.
Hey, estime de soi. Ça, c'est une bonne liste.
Ouais, c'est estime de soi. C'est vraiment bon. Hey, en parlant de jeux pas chers, là, tu sais, récemment, tu m'as écrit que tu avais trouvé Downforce pour presque rien. Tu l'avais trouvé où?
Ah oui, je voulais parler de ça en anglais aussi, mais j'ai pas fait. Mais oui, j'ai trouvé des copies de Downforce à Dollarama. Puis c'est Dollarama, mais on le dit Dolo. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi en français, mais on le dit Dolo.
$2.
Puis ça arrive de temps en temps à trouver de quoi de cheap là-bas. Mais moi, j'étais un peu comme. J'étais vraiment flabbergasté. J'étais comme, quoi que c'est là? Puis j'ai trouvé que c'est moins épais que ma version.
C'est la version Target, en fait.
Ouais, c'est ça ce qu'on m'a dit, finalement.
Les cartes sont la même taille que ta version?
Je n'ai même pas ouvert. Parce que j'ai acheté quelques copies pour les amis. Ouais. Je devrais ouvrir une copie pour comparer, mais je n'ai pas fait. Donc,
ouais.
Mais j'ai une copie pour toi, Luc. Donc.
Mais en fait, la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que cette semaine, j'ai acheté des copies à Dollarama aussi.
Oh, t'en as trouvé aussi?
Oui, mais en fait, c'est parce que je savais que t'en avais acheté. Okay, pour donc, moi, puis je vais te la payer quand même.
Non.
Mais je voulais y jouer.
C'était
5$ la copie. J'en ai acheté pour des cadeaux, comme pour donner à ma famille et tout ben ça, oui. Comme à du monde, parce que c'est tellement un bon jeu.
Ben oui, puis 4$, tu me dois rien, là. Mais je vais l'ouvrir ta copie, donc. Puis je vais comparer avec la mienne. Parce que je voulais garder ça. Je voulais garder ça neuf.
Ce que je suis allé voir, en tout cas, je suis allé voir en ligne, les gens se plaignaient. Je sais pas, j'ai l'impression que la version qu'on a eue au Dollarama était... La version Target. Target avait fait faire une version moins chère.
Oui.
Et que les cartes sont un peu plus petites. Ce qui dérange pas en tant que tel, si tu as juste le jeu de base, tu vas avoir la même chose.
Oh, mais si tu achètes des extensions.
Si jamais tu veux avoir des extensions, ça va mal se mélanger avec les cartes. C'est la seule chose qui... Mais moi, j'essaie d'acheter moins d'extensions, donc ça me dérange pas tant que ça. Puis il paraît que les pouvoirs de base sont différents aussi. D'ailleurs, il y a des gens qui ont la version originale, là, la tienne, qui sont allés sur le site de Restoration Games. Et eux, ils vendent les cartes de Target pour $5 pour ceux et celles qui veulent les pouvoirs différents.
Mais la même taille que les miennes.
Je suis pas certain.
Peut-être juste les cartes. Puis tu utilises le paquet de cartes. OK, je vais comparer ça. Puis je te dis, man, comme les extensions sont importantes, je comprends, mais c'est comme, plaignez-vous pas d'un jeu qui vous a coûté $5 puisque vous ne pouvez pas jouer des extensions. Acheter la copie originale. Donc, comme Target a fait ça parce que c'était un bon jeu, facile à jouer. C'est un vieux jeu que le monde connaît peut-être déjà. Il y avait potentiellement un bon marché pour ça. Évidemment que non, parce qu'on voit les copies à Dollarama. Mais voyons donc, voyons, Restoration Games, pourquoi je peux pas jouer aux extensions? Ta gueule, man. T'as eu le jeu à 4$.
Il y a du monde qui était fâché en ligne et tout ça. Puis je faisais, OK, ça, c'est un peu étrange. Honnêtement, j'ai pas besoin de jouer aux extensions. Là, comme, c'est pas un jeu. J'ai trop de jeux pour jouer super souvent à toutes les extensions.
Non, mais si oui, que t'achètes la version originale, Carlis. Excuse-moi, mais comme...
Mais la version originale, je regardais, était comme $60.
C'est quoi cette planète maintenant, Luc?
Et c'est ça. Oh, tout le monde...
T'as pas payé 35$, mon gros. taper le gros prix de 4 piastres avec les taxes du Québec. Là, comme...
Viens-tu de m'appeler mon gros?
Qui que ce soit qui dit ça, man?
Non, mais comme voyons là,
réveille le monde, réveille là, comme 4 piastres pour un bon jeu de société. Ah, oh, mais je ne peux pas jouer avec les dictants, non.
Ah, tout à coup, il parle comme un schtroumpf.
Ben, voyons donc, là. C'est comme...
Non, mais monsieur, c'est pas juste ça.
C'est comme... J'aimerais... Non, mais voyons, le monde n'est pas ainsi fait, là, comme on vieillit un peu, là, grow up. C'est bien correct de payer 4 piastres pour un bon jeu, puis oui, ça ne matche pas avec l'extension.
Je m'excuse, mais c'est 5$.
Non, mais pour moi, c'était 4, je pense.
C'était 5$.
Mais ça, c'est la nouvelle école. La vie coûte cher. Je parlais des jeux avec 5 lettres dans le nom, puis t'as dit, ben, il y a des c'est intelligent. Mais c'est vrai qu'il y a une série. Il y a une série. Je ne sais pas c'est quoi le nom de la série, mais il y a un jeu Devon, D-V-O-N-N. Il y a un jeu Link, L-Y-N-G-K. Il y a Punct, P-U-N-C-T. Put? Il y a Tamsk, T-A-M-S-K. Il y a Zar, T-Z-A-A-R. Il y a Yinch, dont on a parlé. Il y a Zertz, Z-A-R-T-Z. Donc, oui, il y a un genre de...
drôle. 5$. J'ai la photo que tu m'as envoyée, c'était 5$.
Christ, caliste de tabarnak, il a raison. Mais 5$. 5$. Tu payes 5$ pour un jeu de société. OK, alors oui, tu peux te plaindre. 5$.
Ouais,
là,
c'est ça, 5$. Écoute, on peut se plaindre. On peut se plaindre.
C'est juste comme, je comprends pas le monde. C'est comme, hey, mais c'est pas juste Restoration Game. Comme, ils vont blâmer le style de maison d'édition alors qu'ils ont jamais dit que ça fonctionne avec les extensions. Ils ont fait une version pour...
Target.
Ce qu'ils ont fait, c'est comme essayer de partager notre bel amour des jeux de société avec les masses.
Ouais.
C'est une bonne chose. Arrêtez d'être fucking con. Puis jouer ton fucking esti de copie à 5$ et ta gueule. C'est comme, je suis tanné du monde de même, là. C'est comme, estime.
Hey, faudrait que tu...
J'en mauvaise humeur, Luc.
je vois ça.
Apparemment.
Après ça, là, faudrait que tu ailles sur YouTube puis chercher l'émission Mon grain de sel. Mm. C'est Mon grain, M-O-N-G-R-I-N. Là, c'est pas deux mots parce qu'il s'appelait Jean-Luc Mongrain.
Ah, cool.
C'était Mon grain de sel.
OK.
Fait que tu iras voir ça. Si tu tapes juste Mon grain de sel, ça ressemble à peu près à ce qui vient de se passer. Là, mais ça, c'était comme des années de ce qui vient de se passer dans les 5 dernières minutes.
Non, c'est drôle. Je vais checker ça.
Mon grain de sel.
Mais bon, oui, j'ai trouvé ça. Et le monde est super. Ils sont tellement reconnaissants, nos jours. Puis oui, 5$, c'est vraiment un bon prix pour un jeu incroyable. Moi, j'ai des extensions.
Ouais, c'est un très bon jeu de course.
Ouais, comme c'est simple. On joue des cartes. Il faut. On pense à des actions des autres. On essaie de bloquer. On choisit les moments opportuns pour jouer les cartes parce que les autres ne peuvent pas jouer. Ils ne peuvent pas avancer autant que ça. C'est un bon jeu. Je suis super content que Target a essayé de faire quelque chose comme ça. Ils doivent le faire souvent aux États-Unis. C'est juste qu'on ne voit pas tout le temps les copies non vendues. Puis cette fois-là, j'étais à Dollar puis j'ai dit, hey, j'en achète 4-5 pour les amis. Dont, Luc, tu faisais partie, mais là, j'ai une copie que je peux ouvrir puis je vais juste comme laisser ça à job, genre.
La donner à quelqu'un. Mais je peux te le payer quand même. C'est juste que je me disais, je sais qu'il m'en a acheté un, mais là, je peux jouer plus rapidement. Puis là, j'ai dit, c'est pas grave, je peux y payer non, 5$.
Il n'y a littéralement aucun problème. Là, j'ai comme un cadeau pour quelqu'un d'autre. Ou... Puis bref, Simon, nom de code Simon avec un S, il va recevoir une copie. Il va être un bénéficiaire de cette situation.
D'accord. Jake, as-tu joué à quelque chose récemment?
Oui, puis avant d'en parler, je veux m'excuser pour ceux et celles qui ont trouvé ça un peu trop extrême comme réaction. Je comprends pas le monde, mais je ne suis pas vraiment en mauvaise humeur. Je suis en très bonne humeur. C'est juste, c'est quasiment baffling. Je peux même pas dire ça en français. Comme, je suis quasiment sans mots. Et si vous me connaissez dans la vraie vie, vous savez que c'est pas souvent ça. À quel point il y a des gens tellement... Tu sais, tellement comme...
Surtout que même quand t'es sans mots, t'es avec mots.
Oui, voilà. C'est juste comme... Comment est-ce que...
C'est déconcertant.
Comment est-ce que vous vivez? Comment est-ce que vous vivez? C'est 5$. Comment est-ce que vous vivez? Comme, posez-vous la vraie question.
Je sais pas, moi, je suis allé chez Tim's, puis mon thé était 5$, puis...
Non, je dis pas qu'il y a aucune situation où vous pouvez vous plaindre pour un 5$. Je dis juste que dans cette situation-là, c'est tellement con les attentes que le monde, ils ont. Comme si tout nous est dû. C'est comme, grandissez, là. Grow the fuck up. OK. Oui, j'ai joué à quelque chose récemment. J'ai joué à deux nouveaux jeux. Les deux sont les jeux à deux. Je vais commencer par parler de Beer and Bread. Beer and Bread est un jeu de cartes, principalement, où on essaie de cuire du pain ou de brasser de la bière. Bien sûr, c'est pour ça que le nom est Beer and Bread en anglais. Ah, je ne sais pas si c'est une version française, mais si oui, ça doit être appelé du pain et de la bière. C'est même pas un jeu de mots, c'est juste Beer and Bread. Sauf si moi, j'ai pas catché la blague, là. Je pense que c'est juste le nom.
Non, c'est Bread, B-R-E-D.
Non. Ouais? C'est-tu vrai? J'ai pas checké.
Non.
C'est pas vrai. Donc, voilà. On essaie de faire de la bière et du pain. On a des cartes. Il y a 8 rondes. Les rondes impaires. On a une saison avec plein de récoltes. Puis les rondes paires, il y a des saisons un peu plus sèches avec moins de récoltes et donc moins de ressources. Ça, c'est déjà une chose qui est assez intéressante de voir que thématiquement, il y a des années pires que d'autres. Pour les rondes impaires, on va commencer par faire un drafting de cartes. Donc, on prend une carte, on passe le paquet à notre adversaire, ainsi de suite. Puis, la deuxième ronde, les rondes paires qui sont associées avec les premières rondes, on utilise les mêmes cartes qu'on a jouées la première ronde. Donc, en choisissant ou en sélectionnant nos cartes de la première ronde, il faut vraiment faire attention parce que c'est des cartes avec lesquelles on va être pogné pour la prochaine ronde. Ça, c'est déjà cool aussi. La carte, ou chaque carte, a 3 choses qu'on pourrait faire avec. Donc, moi, j'aime beaucoup ça quand les jeux ils font ça. L'idée, c'est qu'en haut, il y a des ressources qui sont là. Au milieu, il y a les recettes de bière ou de pain que vous pouvez faire. Et bien, en bas, il y a des actions spéciales, des pouvoirs spéciaux où on peut utiliser la carte pour cette raison-là. Ça ajoute un petit peu au niveau de complexité parce que là, on a des décisions importantes ou intéressantes à prendre parce que chaque carte pourrait être utilisée pour autre chose. Donc, il y avait des fois que j'ai dit ah, « je veux faire du pain avec ça, mais crime, paf, que le pouvoir spécial est intéressant. » Puis ça m'interpelle, je veux l'utiliser pour ça aussi. Donc, comment ça fonctionne? On joue la carte sur la table devant nous pour avoir des ressources. Et les ressources qui sont là sur la carte, on les reçoit. Mais à chaque fois qu'on va jouer une autre carte additionnelle pour des ressources, la première carte se réactive encore une fois aussi. C'est-à-dire qu'on génère de plus en plus de ressources avec chaque carte jouée. Ensuite, si on veut à la place de jouer une carte de cette façon-là, si on veut faire une recette, on peut jouer la carte pour ça et payer les ressources associées afin de pouvoir placer cette carte dans notre pâtisserie ou boulangerie ou bien dans notre brasserie. Chaque brasserie et boulangerie, on peut juste avoir une carte à la fois, sauf si on a un pouvoir spécial plus tard dans le jeu. Et pour la troisième action qu'on peut faire, on choisit la carte, on le met en dessous du plateau dans une section particulière et ça nous donne soit des pouvoirs tout de suite, soit des bénéfices tout de suite, soit un peu d'entreposage extra ou bien soit des opportunités de pointage, des opportunités de score qu'on peut avoir à la toute fin de la partie. Pour sortir le pain et la bière de nos bâtiment, il faut qu'on joue une carte de cette façon, pouvoir spécial. Il faut qu'on utilise de cette façon afin de sortir de quoi là-dedans. Puis chacun peut juste en avoir une carte et donc on ne va pas trop attendre d'enlever le pain et la bière de nos brasseries. Tout comme le jeu Between Two Cities, ça s'appelle de même, Between Two Cities? Oui. Il faut penser au pain ou à la bière qui a le moins de points. Parce que c'est ce produit-là qui va finir ou qui va être servi, qui va servir comme nos points à la toute fin de la partie. C'est-à-dire que si j'ai 5 pains que j'ai fait et juste 2 bières, c'est fort probable que j'ai plus de points dans le pain et donc ces points-là ne vont pas compter. Donc, on essaie d'avoir un certain équilibre entre le pain et la bière. Et voilà, je pense que j'ai bien décrit. Il y a 5 ressources, dont 4 sont limitées dépendamment de la saison ou l'année ou la ronde. Donc, s'il en reste plus, il n'y en a plus. Très thématique. Et il y a de l'eau, la 5e ressource qui est toujours, toujours disponible au centre. Si on a des ressources extra, c'est-à-dire plus que 9, il faut qu'on s'en débarrasse jusqu'à 9. Donc, on a un maximum de 9. Puis, avant de se débarrasser des ressources, on doit donner une chance à notre adversaire de prendre les ressources qu'on est sur le point de jeter. Moi, je vois ça un peu, encore une fois, thématique. Moi, je suis un marchand. Et je dis, hey, je ne vais pas utiliser cette farine ou je ne vais pas utiliser cette orge ou je ne vais pas utiliser ce houblon. En voulez-vous avant que je les jette? Et ils vont dire oui ou non, ils peuvent en prendre. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, je trouve ça très, très, très bon. J'avoue qu'il y avait un petit problématique qui est arrivé à plusieurs reprises. Et les deux, on a trouvé ça un peu difficile à comprendre pourquoi c'est fait ainsi. Donc, comme j'ai dit, sur les cartes, il y a des recettes. Bien, la première ronde, on est en train de se passer les paquets de cartes. Et quand on fait un drafting à deux, c'est pas si difficile que ça de se rappeler de ce qui est dans la main de l'autre. Mais le problème qu'on a rencontré à plusieurs reprises, c'était qu'on planifiait d'avoir plein de ressources. Puis, on a juste une limite de 9. Et souvent, les ressources sur les cartes étaient 6, 7, 5 différentes ressources, dont l'eau, l'orge, le blé, etc. Et donc, si je vois une carte dans mon jeu et je dis, OK, je vais essayer d'avoir des ressources pour avoir 4 orges, 2 blés et 1 eau, une petite gouttelette d'eau, je vais essayer de générer ça. Mais générer ces ressources, c'est pas facile parce que le haut des cartes a juste 2, peut-être 3 ressources. Donc, si j'ai besoin de 4 eaux ou 4 blés, je dois jouer plusieurs cartes de ressources pour y arriver. Puis là, j'ai joué plusieurs cartes, puis j'ai vraiment comme les bons ingrédients. Puis si j'ai besoin de 7 ingrédients, c'est presque les 9 max que j'ai. Donc, je suis vraiment spécialisé dans mon affaire. Puis là, je reçois le paquet de mon ami, puis clac. Il a pris cette carte-là. Et c'est même pas hors de malfaisance, tu sais. Peut-être que c'est juste une carte qui a fonctionné pour son tableau à lui. Et moi, je suis là à dire, ben, Carlis, je faisais tout ce travail-là pour acheter cette carte-là et je peux même pas pivoter. Je peux même pas changer de direction avec ma stratégie. C'est pas tant facile que ça une fois qu'on est rendu à ce point-là. C'est vrai qu'il y a de certains produits qui ont juste 4 ressources puis j'aurais pu être un petit peu plus flexible, etc., blablabli. Mais ça nous force à prendre les cartes pour encore une fois générer des ressources. Ben, c'est bien, j'ai déjà 7, 8. Je ne peux même pas avoir toutes les ressources parce que j'ai une limite de 9. Ou bien soit jouer la carte en dessous du plateau pour un pouvoir spécial. Et peut-être que ce n'est pas intéressant. Donc, ça, c'est un problème qu'on a vu. On n'est pas certain que c'est pas nous le problème. On y a juste joué une fois. Mais sinon, Si c'est nous autres le problème, c'est un jeu fantastique. Mais même si c'est pas nous autres le problème, c'est un bon jeu. Donc, j'ai vraiment bien aimé l'expérience. Luc, t'as mentionné que c'est le même artiste qui fait le visuel du plateau, on dirait de Stone Age, de l'âge de pierre.
Stone Age et The Adventures of Robin Hood aussi.
Ouais, et parmi d'autres. Et on dirait vraiment que ça a même fil de Stone Age, c'est vraiment bien fait, c'est très beau. Les cartes sont belles, le plateau est beau, les composantes sont bien faites, les petits meeples qui représentent des ressources, tout était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé, mais un petit défaut peut-être dans le jeu, j'irai pas aussi loin à dire que c'est brisé, parce que c'était quand même très bon, et je veux vraiment y rejouer un jour, mais bon. Ça, c'était ça, beer and
je pense que dans le dictionnaire, bread. Larousse, à côté de brisé, il devrait y avoir ta photo.
C'est pas impossible. Non, mais c'est pas vrai. Je dis pas ça souvent. Puis, le deuxième jeu que j'ai joué, c'est Fugitive, en anglais. Je sais pas, en français, c'est quoi? C'est-tu juste fugitive?
Fugitif, j'imagine.
Quelqu'un qui se fuit, là. Quelqu'un qui se fuit, là, de la loi, là, de... des policiers.
Je vais regarder s'il y a une version française.
Non, mais le mot même, fugitive en français, c'est quoi?
Fugitif. Fugitif.
Oh, c'est fugitif.
Ou fugitive. Raison. Fugitif au masculin, fugitive.
OK, cool. Donc, c'est un jeu à deux encore avec des cartes. Ça va pas prendre aussi long d'en parler parce que c'est très simple. On fait juste placer des cartes face cachée si on est le fugitif. Et l'autre, c'est de deviner c'est quelles cartes qui ont été mises. Donc, on a des cartes de 1 jusqu'à 42. On place au départ quelque chose comme 5 cartes et on repige des cartes comme fugitif. Puis là, le policier ou le détective essaie de deviner. S'il a raison, on vire d'abord la carte. Et s'il arrive à dévoiler toutes les cartes, il a gagné ou elle a gagné. Mais si moi, j'arrive à 42 avant que vous le fassiez, ben j'ai gagné. Mais c'est pas aussi simple que ça d'être le fugitif non plus, parce qu'on peut juste avancer de 3, un maximum de 3 chiffres à la fois. Mais, exception, si on veut jouer nos cartes comme des pas extra, on peut le faire. On a des cartes de 1 ou 2 pieds qui sont sur les cartes. Et donc, je peux cacher des cartes en dessous, ben pas cacher, mais utiliser les cartes et dire j'avance de jusqu'à 4 ou jusqu'à 6 ou jusqu'à 9. C'est comme je veux, mais j'utilise des cartes. Je gâche mes cartes dans le fond si je fais ça. Puis, je peux faire semblant que j'ai avancé de plus de 3, mais peut-être que j'ai juste avancé de 2 espaces. Puis là, j'ai fait à croire que c'était plus. Donc, un vraiment cool jeu de déduction. On est en train de penser qu'est-ce qu'il pense en ce moment. Puis, c'est pas tout le temps qu'on arrive à vraiment deviner les cartes. Mais bon, c'était vraiment amusant. On a joué quelques fois tous les deux comme le policier, puis le détective, puis le fugitif. Et c'est vraiment, vraiment à essayer, à mon avis. Super simple, super beau. C'est la deuxième édition qui vient de sortir en passant. Je vais essayer de trouver une copie puis l'acheter. Donc voilà, mon deuxième jeu, c'est Fugitive ou Fugitive, peut-être en français, je ne sais pas.
Ouais, fut quelque chose.
C'est Fugitif.
Moi, Jake, j'ai joué un jeu qui s'appelle Rolling Heights. En fait, j'ai reçu Rolling Heights juste avant de partir. Je suis parti en Afrique de l'Ouest il n'y a pas longtemps. En Afrique de l'Ouest et centrale. Et d'ailleurs, je voulais expliquer, c'est vrai, j'ai pas expliqué ça. Je voulais expliquer aux auditrices et aux auditeurs la raison pour laquelle on a eu on a tellement attendu longtemps avant de faire un nouvel épisode. C'est tout simplement que j'étais en voyage de travail en Afrique de l'Ouest. J'étais au Sénégal plus particulièrement.
Il a vomi sur son ordi, il ne veut pas que vous le sachiez.
Exactement ça. Puis j'étais dans un salon et tout à coup, il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde. Puis j'avais une tasse de thé, tu sais, une sorte de thermos de voyage de thé. Et,
c'est une longue histoire qui n'est pas vraie.
Tout le monde. Puis là, tout à coup, il y a plus de monde qui est entré dans la salle, plus de monde. Puis là, il y a du monde qui s'est retrouvé derrière ma table. Il y avait tellement de monde. J'ai tout approché mes choses proches de moi. Puis à un moment donné, j'ai accroché ma tasse de thé qui est tombée dans mon clavier d'ordinateur au complet. Donc, j'avais apporté un micro avec moi, mais j'avais plus d'ordinateur pour le reste du voyage. J'ai répondu à des emails avec un téléphone tout le reste du voyage. Donc, c'est ça qui est arrivé. C'est la raison pour laquelle on a attendu aussi longtemps. Maintenant. Juste avant de partir sur ce voyage-là, j'ai reçu le jeu Rolling Heights. Et ça m'a fait chier parce que c'est vraiment le jour avant de partir que je l'ai reçu. J'ai fait « Ah, je pourrais pas essayer mon Kickstarter avant de revenir. » Et je l'ai essayé en revenant. Et Kickstarter, c'est un jeu de place, de construction de ville. On se construit une ville, mais aussi on lance des dés. Mais les dés sont pas des dés, les dés sont des meeples. Donc, c'est des petits personnages. Et selon la façon de tomber des meeples, on gagne certains avantages. On commence le jeu, on se bâtit une main de meeples parce qu'on commence le jeu avec deux meeples gris qui nous donnent de la pierre et deux meeples bruns qui nous donnent du bois. Si les meeples tombent sur leurs pieds, ça nous donne deux ressources de ce type-là. Si elles tombent sur leur arête, donc les meeples tombent sur leur arête, c'est-à-dire n'importe où sur le côté, ça nous donne, sauf sur les pieds, ça nous donne une ressource de chaque type, et si ça tombe sur son dos, sur son ventre, ça nous donne absolument rien. Comment ça fonctionne en gros? On va lancer les meeples, et là vous dites, ouais, mais qu'est-ce qui arrive si ça tombe sur... là j'ai dit ça tombe, tout à l'heure j'ai dit une listre, puis là j'ai dit ça tombe.
Honnêtement, ça, tu le fais souvent.
Oui. Et
OK. Ça va sembler méchant puis ignorant. Parce que tu me diras si je le fais en anglais. Je sais pas pourquoi tu le fais aussi souvent que t'es francophone. Tu sais, comme.
J'ai aucune idée. Parce que
j'ai jamais rencontré personne qui dit listre ni tombe là.
Je dis jamais listre dans la vie de tous les jours, juste dans ce podcast.
Mais j'adore. Je sais pas, un douche, mais comme, je trouve ça comique parce que c'est comme.
T'es quand même un peu douche.
Oh man. Il y a pas un meilleur douche que moi. Honnêtement. Moi, c'était à laisser ou apprendre, tu sais. C'était à m'aimer ou à me détester, mais je suis en plein ça.
Pour le bénéfice de nos auditrices et auditeurs franco qui ne savent pas ce que douche veut dire en anglais, cherchez-le. Ça veut pas dire une douche en français. Donc, c'est ça.
Well! Ça dépend.
C'est pas la même chose.
Il y a de plusieurs significations pour ce mot-là, mais bon. Douche. Oui, c'est ça. Je le prononce à l'anglaise en plus, tu sais. Douche.
Douche.
Parce que je dirais pas une douche. Je suis pas une douche. Je suis un douche.
Ouais.
Toi, douche. Tu comprends. Les Québécois comprennent, excuse-moi. Mais est-ce que les Français de France vont comprendre une douche et un douche? On verra.
On verra.
Dites-le-nous.
T'es un peu douche.
Ah, à 1000%. Il n'y a pas plus douche dans le monde. Comme honnêtement, je suis tellement une douche. Puis, ouais,
sur les
pas.
Échelles de douche-ness,
douche, ouais, douche. De 1 à 10, je suis douche. C'est comme... Ce qui est un nom.
Exactement. Oui, donc, tout ça pour dire que j'ai reçu Rolling Heights, j'ai joué à ça. Donc, dans ce jeu-là, vous allez lancer justement des meeples et tout ça, et vous allez bâtir une ville. À mesure que le jeu avance, votre ville va grandir, et lorsque vous réussissez à compléter une tuile, parce que vous allez, pour vous procurer des tuiles, vous allez payer des cubes que vous allez recevoir en lançant vos meeples. Et là, avec les cubes restants, vous allez pouvoir bâtir des bâtiments sur vos tuiles qui, une fois les tuiles complétées, une fois le bâtiment complété, vont vous donner des points et aussi vont vous donner des avantages comme d'autres meeples ou des façons de faire des points avec les meeples ou des façons de gagner plus de ressources avec des meeples. Et à mesure que ça avance, vous allez gagner des différentes couleurs de meeples. Donc, par exemple, un meeple transparent mauve va vous donner des ressources que vous pouvez utiliser soit pour acheter, soit pour construire. Il y a une sorte de meeple qui va vous donner, je crois que c'est le rose fuchsia un peu, qui va vous donner des cubes virtuels pour acheter des choses. Donc, c'est ça, c'est un peu ça le jeu. Et puis, il y a vraiment deux marchés à gauche et à droite du plateau, les marchés de niveau 1, le marché de niveau 2. Le niveau 1 est plus facile à acheter, mais vous donne moins d'avantages que le niveau 2 qui est moins facile à acheter puis qui est plus difficile à construire, mais qui vous donne plus d'avantages. À mesure que les tuiles ont été sur le jeu plus longtemps, elles coûtent de moins en moins cher. Et même si on n'achète pas les deux premières, on va rajouter des ressources sur... C'est un peu comme quand tu joues à Small World et tu ne prends pas les premières tuiles, tu mets des choses sur les tuiles. Donc, les futurs joueurs vont pouvoir prendre ces tuiles-là et gagner plus d'avantages. Donc, c'est ça. Honnêtement, c'est un jeu qui a vraiment une belle présence sur la table. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. C'est un jeu, je veux dire, c'est comme... Moi, tu sais que j'aime les jeux un peu plus charnus, les jeux qui ont plus de contenu et tout ça, un peu plus complexe. Mais c'est quand même un jeu qui donne cette impression-là, mais qui est vraiment de difficulté moyenne. Et j'ai joué ça avec mon épouse et on a même rejoué le lendemain. Elle a aimé le jeu, donc j'ai l'impression que c'est vraiment un bon mélange entre un jeu pour les experts et un jeu pour... celles et ceux qui préfèrent les jeux un peu plus simples. On s'est retrouvé là-dedans. La seule chose, c'est que sur la boîte de jeu, ça dit que ça se joue en une heure. Les deux personnes avec qui j'ai joué, ce sont pas des personnes qui jouent rapidement des jeux, mais quand même, j'ai vraiment l'impression que même si j'avais joué avec Sacha, qui est probablement la personne avec qui on joue des jeux le plus rapidement, ça nous aurait pris peut-être une heure et demie jouer. Donc, je crois pas qu'une heure, ça soit très réaliste. Donc, le jeu de cette semaine, Rolling Heights.
Cool. Ça a l'air vraiment cool. C'est comme Pass the Pigs, mais en plus, on fait construire une ville après. C'est un jeu que j'aime. Puis je trouve ça vraiment cool. C'est quand même au hasard. Je serais intéressé d'y jouer pour voir est-ce que je pense que les retombées des meeples est assez juste pour ce qu'on reçoit? Parce que l'idée d'un day, il y a une fois sur six qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est comment les odds fonctionnent. Okay? C'est des probabilités. Mais pour lancer un meeple de même, non, il doit avoir bien plus de chances que ça tombe sur le chest.
Oui. T'sais? Mais j'ai oublié de mentionner ça. C'est que tu vas lancer tes dés jusqu'à ce que tu en aies au moins 50%, pas tes dés, tes meeples, jusqu'à ce qu'au moins 50% de tes meeples soient dans une position qui te rapporte quelque chose. Donc, même si, par exemple, à ton premier jet, 100% de tes meeples sont tombés sur le ventre, tu vas relancer jusqu'à ce que tu aies au moins 50%. Donc, quand tu en as un qui marche, là, tu le mets de côté. Et puis, une fois que tu t'es rendu à 50%, tu as une sorte de composante stop ou encore. C'est-à-dire que tu peux décider, OK, maintenant, à 50%, je fais ça gratuitement. Maintenant, est-ce que je pousse mes travailleurs à travailler plus? Donc, tu peux relancer tous tes meeples qui restent dans ton... Parce que tu as une petite boîte. Hein, chacun a sa petite boîte personnelle, là, l'usine où tes travailleurs vont aller travailler. Et tu peux décider de relancer ça une fois et dire, si 100% de tes meeples tombent sur le ventre, ben là, tes travailleurs vont en grève, tu perds la moitié de tes travailleurs que tu as eu jusqu'à présent. Mais si au moins un de tes travailleurs reste sur le côté ou sur les pieds, là, tu peux dire « Oh, ben je vais continuer encore. » Et tu peux faire ça continuellement jusqu'à ce que tu décides d'arrêter ou que tous tes meeples soient tombés sur le ventre et là, tu dois te débarrasser de la moitié. Ça m'est arrivé une fois que mes travailleurs soient allés en grève. Peut-être que j'arrête juste à temps tout le temps. Mais en tout cas, je trouve que cette composante-là est assez intéressante. Puis il y a aussi un des meeples dont la fonction est de relancer tous les meeples qui sont dans la boîte sur le ventre. Donc, si tu as réussi à mettre ce meeple-là sur son côté, ben, tu vas pouvoir lancer des meeples. Et voilà.
Cool. Moi, je trouve ça intéressant. C'est un jeu que j'essaierai si j'avais la chance.
Mm-hmm. Ben, un jour, peut-être.
Il faut que je vienne en Nouvelle-Écosse. Ça fait longtemps.
Ça fait 3 ans. Plus de 3 ans.
Et là, c'est 3 ans et 3 mois, presque. 2 mois.
Yeah. C'est la vie.
C'est la vie.
Faudra revenir.
Alors, Luc et Luc de Luxe Tardif.
Oui.
On parle de quoi aujourd'hui? On parle des jeux qui sont classés entre 800 et 701 sur Board Game Geek. Un sujet qu'on a déjà fait dans le passé, donc c'est pas très, très, très unique, mais je pense que c'est quand même intéressant. Et ce qui est le fun de ça, c'est que ce serait cool de faire un épisode à la toute fin de ça, Luc, où on revient un épisode de 3000 jusqu'à 1, puis on parle des jeux qu'on aurait inclus si on avait y joué avant, si on y avait joué avant ou à temps de l'enregistrement de ces listes-là. Je pense que ça pourrait être cool. Ça pourrait être un peu trop long, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux, mais j'y ai pensé, j'ai checké vite fait le 700 jusqu'à 600, comme juste pour voir. Et ça m'a fait penser comme, oh man, il y a des jeux là-dedans que je veux vraiment essayer, mais à me connaître, je sais que je ne vais pas y jouer. Tu sais, comme, c'est sur ma liste de honte. Et probablement que ça ne va pas se régler d'ici la prochaine fois qu'on fait ça. Mais peut-être, et peut-être dans 5, 6 mois, 2 ans, j'aurai jouer à ces jeux-là. Donc, ça, c'était juste une idée que j'avais vite de même. Moi, ma liste, j'ai quand même des jeux que j'ai déjà mentionnés à plusieurs reprises, mais quelques-uns que j'ai mentionnés beaucoup moins souvent. Et je pense que tu as fait la même chose, que de 5 à 1, c'est mes jeux préférés de cette liste.
Exactement.
Okay.
C'est ça que j'ai fait.
OK. Donc, oui, est-ce que tu as d'autres éléments que tu voulais mentionner avant qu'on commence les listes?
J'ai pas mis les aventures de Robin des Bois, The Adventures of Robin Hood, sur cette liste-là parce que je suis pas allé réécouter nos épisodes du passé, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai mentionné ce jeu-là dans les listes de BGG. Donc, je voulais pas renommer. J'imagine que depuis ce temps-là, le jeu est monté un peu dans les listes et c'est pour ça que qu'il se retrouve maintenant entre 700 et 800. Mais je ne voulais pas nommer le même jeu deux fois, donc je ne l'ai pas mis là-dedans. À part ça, pas grand-chose à dire. Ça va aller dans les... Oh! À part ça, oui, je sais. j'ai pas nommé Vast dans mon top 5 parce que j'ai vraiment détesté ce jeu-là. Vast.
Ok.
Vast. J'ai vraiment pas aimé ça.
Jeanne.
Oui? D'accord. Jeanne. C'est quoi ton numéro 5?
Mon numéro 5, c'est un jeu qui s'appelle Railroad Inc. C'est classé numéro 769. C'est un jeu roll and write où on lance les dés et on doit prendre des décisions de comment utiliser les chemins de fer ou les routes qui sont sur les dés, comment on va les mettre dans notre ville ou sur notre plateau de joueur. C'était vraiment le fun, super simple à expliquer comment jouer. Il y a quand même des règles plus complexes ou de quoi d'extra qu'on peut ajouter au jeu. J'ai pas joué depuis longtemps, mais c'est dans ma collection. Puis à en parler, ça me donne le goût d'y jouer à nouveau. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis il y a plusieurs versions. Il y a une version bleue, rouge, jaune, verte. C'est un peu comme Pokémon, ça, quasiment. Puis moi, j'ai la version rouge qui est classée de 769. Donc, je ne sais pas si c'est meilleur que le bleu ou que le vert ou quoi que ce soit, mais c'est quand même un cool de jeu, assez vite à jouer, assez cool, facile à comprendre, excusez. Et voilà, Railroad Inc., on lance les dés, on prend les chemins de fer, les routes, et on décide comment les placer pour essayer d'avoir autant de chemin que possible, d'avoir autant de possibilités de transport que possible, puis de le relier de certaines sections de notre plateau de joueurs. Mon numéro 5, ça, Railroad Inc.
C'est un jeu, c'est pas celui-là qui a deux couleurs de boîte, là, il y en a une violette ou une orange, là?
Ben oui, il y a un rouge, puis un bleu.
Ok, je pensais que c'était violet et orange, mais est-ce que c'est la même chose?
Il y a de nouvelles versions aussi. J'ai déjà vu une version verte. Je pense que j'ai vu une jaune. Je ne sais pas si j'ai vu un orange ou un violette, mais oui.
Le jeu, c'est le même? Est-ce que c'est le même à l'intérieur? C'est juste une boîte différente?
Je pense que chacun a de quoi différent. Donc, le rouge, c'est comme s'il y a de la lave. Il y a une version qu'on peut mettre de la lave un peu sur les plateaux. Puis la version bleue, je pense que c'est de l'eau qui comme fait genre une inondation, je pense, je ne sais pas. Puis oui, chaque version a de légères différences. Légères différences. Ce que je trouve cool, je ne sais pas si ça mérite d'acheter tous les couleurs, mais de quand même les essayer avec des amis ou quelque chose, et c'est cool.
Mm-hmm. Excellent. Jamais essayé. Peut-être un jour, qui sait?
Oui.
Peut-être. Si un jour je retourne à Ottawa. Mon numéro 5, c'est un jeu de Bruno Catala qui s'appelle Kanagawa. Je ne sais pas si tu connais Kanagawa.
Déjà entendu le nom et c'est sur ma liste de jeux auxquels j'aimerais jouer, mais jamais joué.
Ouais, Kanagawa qui est comme... qui est un très... En fait, c'est Bruno Catala avec Charles Chevalier, en fait. Et c'est un jeu très beau où on a une sorte d'école de peinture dans un monde japonais. Je pense que c'est vraiment asiatique, japonais. Et ça se joue, le plateau de jeu, c'est une sorte de tapis à sushi, là, un peu comme quand on roule des sushis. C'est un très, très, très beau jeu. Malheureusement, la dernière fois que j'y ai joué, ça fait plus d'un an, donc je ne me souviens pas exactement des règles, mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé le feeling et j'ai l'impression que ça pourrait être plus haut sur ma liste si je me rappelais 100% des règles. Mais je sais que au moment de le jouer, j'avais vraiment aimé ça. On a une école de peinture et on essaie d'enseigner la peinture et puis il y a vraiment, vraiment des belles images et tout ça. Donc, mon numéro 5, je sais que je vous convainc pas tant que ça, mais allez voir en ligne, il y a des vidéos et tout ça. Le visuel est très, très beau. Kanagawa, mon numéro 5, 736 sur BGG.
Mon numéro 4, c'est un jeu qui s'appelle Villainous. En fait, c'est la version de Disney qui est classée à 719 sur Board Game Geek. Villainous est un vraiment, vraiment cool de jeu, intéressant, assez unique dans son implantation parce que c'est asymétrique. Mais c'est pas asymétrique avec autant d'interactions comme un Raptor ou un Root ou quelque chose comme ça. C'est vraiment... On joue notre propre jeu. On dirait presque du solitaire, mais on peut empêcher les autres à faire ce qu'ils essaient de faire, à atteindre leurs objectifs. Il faut y penser tout le temps en plus, parce que si on laisse aller le monde, on va laisser gagner le monde. Donc, oui, on peut mettre l'emphase ou focusser juste sur notre plateau ou juste sur notre jeu, mais c'est fort probable qu'on aura des empêchements des autres et il faut quand même faire ou donner des cartes d'empêchement à les autres joueurs, aux autres joueurs, si on veut gagner la partie. Donc, c'est vraiment cool. Je l'aime beaucoup. Puis, ce qui est cool, c'est qu'ils ont d'autres versions maintenant. Ils ont Marvel, ils ont Star Wars. Donc, je trouve qu'on peut prendre plein de propriétés intellectuelles puis de les appliquer à ce jeu-là. C'est vraiment juste une question de thématique. Puis même quand on pense à Villainous, à Disney, c'est des films différents. Chaque vilain, c'est un vilain d'un film. Donc, normalement, on n'aura jamais une interaction entre Jafar puis je ne sais pas moi, Simba. Tu sais, ça arriverait jamais dans le monde. Mais on le voit que il n'y a pas d'interaction entre les personnages, mais quand même, moi, je joue Scar, puis toi, tu joues Jafar, puis je vais quand même interagir avec toi pour bloquer. Ça, c'est vraiment cool. Puis il y a plein d'univers qui pourraient bénéficier ou profiter de ce genre de système de jeu. Donc, je l'aime, je le suggère. Ou une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est que on n'est pas obligé d'acheter le jeu de base. Si les personnages ne vous intéressent pas dans le jeu de base, mais qu'il y a des extensions avec des vilains qui vous intéressent plus, ben, vous pouvez juste acheter l'extension parce qu'on peut jouer tout simplement avec l'extension. D'habitude, les extensions viennent avec 3 personnages là-dedans, donc on peut jouer jusqu'à 3 avec ça. Et je pense que c'est suffisant juste pour tester, goûter au jeu un peu, voir si on l'aime. Facile à trouver, usagé, facile à vendre probablement après aussi. Donc, mon numéro 4, classé 719, Disney Villainous.
C'est un jeu auquel j'avais pas vraiment envie de jouer quand c'est sorti. Puis je sais que la raison principale, c'est que c'est ce genre de jeu-là qui est sorti dans les magasins de grande surface directement à côté des jeux comme Monopoly et Scrabble et tout ça. Un peu comme Blockus est sorti dans le temps. Et c'est ça, ça m'a vraiment pas donné envie d'y jouer. Mais j'y ai joué récemment, puis j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est le côté asymétrique, c'est extrêmement asymétrique. C'est pas juste un peu asymétrique. Tu sais, par exemple, Raptor, c'est asymétrique, mais on fait un peu la même chose. Alors que dans ce jeu-là, c'est vraiment, on fait 100% quelque chose de différent des autres. Donc, notre façon de gagner est tellement différente que ça ajoute beaucoup de rejouabilité à ce jeu-là. J'ai vraiment aimé ça. Et voilà. Donc, ça, c'était ton numéro
4.
Mon numéro 4, moi, c'est un jeu qui a complètement remplacé Carcassonne. Pour moi, je ne crois pas avoir joué à Carcassonne depuis que j'ai eu ce jeu-là. C'est un jeu qui s'appelle Tang Garden. C'est vraiment un jeu dans lequel on place des tuiles, on se construit une sorte de tableau. C'est un jeu magnifique. On va placer des arbres sur notre plateau, on va placer des paysages, on a des sortes de petits belvédères, on a des personnages qu'on va introduire dans le jeu aussi. Alors, Tang Garden, vraiment, si vous avez aimé Carcassonne et c'est le genre de jeu que vous aimez, selon moi, c'est une version extrêmement meilleure, mais c'est surtout et encore plus, probablement le plus beau jeu que j'ai. Sinon, un des top 5 facilement, auquel il m'a été donné de jouer. Une super belle présence sur la table aussi, puis vraiment, 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 vraiment beau, des composantes de qualité. Mon numéro 4, Tang Garden.
C'est un très beau jeu à tout ce que je vois en ligne, mais j'ai jamais joué à ce jeu-là. Donc, un jour, je vais essayer ça. Mon numéro 3 est classé 723 et ça s'appelle Wits and Wagers. Je crois, et je suis presque certain, qu'il y a une version française, mais c'est Days of Wonder qui l'a fait, puis j'ai oublié c'est quoi le nom. C'est quelque chose de neuf.
Ouais, moi aussi, j'oublie le nom. On en a déjà parlé dans le passé, puis à chaque fois.
Oui, comme... je vais juste cliquer le bouton « Version » dans Board Game Geek. Ça s'appelle...
Oui.
Oui. C'est... Bref, on va trouver ça à un moment donné. C'est un jeu de trivia, mais c'est pas juste de connaître ou de savoir la bonne réponse qui compte. On peut aussi miser sur les réponses des autres pour générer plus d'argent, plus de points à la fin. Donc, le gros problème ou le gros enjeu avec les jeux de trivia d'habitude, c'est que le monde dit, ben, c'est toujours le geek de connaissances hasard qui va
Gambit
gagner.
7.
Gambit 7. Gambit 7. C'est un peu pénible parfois parce qu'on joue à ça puis c'est toujours la même personne qui gagne. En fait, quelqu'un que moi, je connais, Luc, tu connais aussi, nom de code Simon avec un S, il est le type de personne qui, tout le temps, lorsqu'on joue à un genre de trivia, il y a au moins quelques-unes des réponses. C'est quelqu'un qui gagnerait souvent un jeu de même de trivia. Jusqu'au point que même on a fait un trivia quotidien dans le temps à un bar à Gatineau et il était probablement le capitaine de l'équipe. Il était le gars qui avait le plus de bonnes réponses. Pas pour dire que les autres étaient nuls, mais moi, j'étais nul, clairement. Puis ça pourrait être frustrant de jouer à un jeu de trivia avec quelqu'un comme ça parce qu'ils ont tout le temps les bonnes réponses puis on sent comme si c'est quoi le point? Je peux même pas gagner. Donc ça enlève tout ça. Parce qu'on peut juste miser sur les réponses de nom de code Simon avec un S. Mais ce qui est le fun de ça, c'est que mettons qu'il y a une catégorie comme les jeux de société, et moi et Luc, on connaît vraiment bien les jeux de société, alors le monde, ils vont miser sur nos réponses. Et la question, c'est en quelle année que le jeu de Colombe de Catan a été sorti? Ben, on peut tricher, on peut mettre la mauvaise réponse pour juste faire à croire qu'on connaît la bonne réponse. C'est pas très stratégique parce qu'on n'aura pas beaucoup de points. Et où est-ce qu'on va miser après ça? Est-ce qu'on mise sur une autre réponse de quelqu'un d'autre? Mais même à ça, je peux mettre la bonne réponse et miser sur quelqu'un d'autre. Puis le monde dit, ben pourquoi il miserait là s'il y a la bonne réponse? Donc, on peut faire un petit peu d'un jeu mental là-dedans. C'est vraiment le fun. Je l'aime beaucoup. Je veux extrêmement beaucoup la version française Gambit 7. Je joue presque exclusivement avec les francophones ici à Ottawa, Gatineau. Et oui, j'ai réussi à apporter Wits & Wagers à la job et faire jouer ça les collègues. Mais j'aimerais incroyablement avoir la Gambit 7. S'il y a quelqu'un qui nous écoute en France ou bien au Québec, et que vous avez le jeu en français Gambit 7, j'aimerais bien l'acheter de vous si vous le vendez. Donc, contactez-nous. Oui, voilà mon numéro 3, Wits & Wagers.
Juste pour que tu saches aussi, tu sais, il y a la version Wits & Wagers Party. La version française de ça, c'était Kit ou Double. On parie que vous le savez. C'est ça. Donc, il y a cette version-là aussi qui existait.
Ah, je ne savais pas. C'est quoi encore? Donc,
Kit ou double, on parie que vous le savez.
Kit ou double, ça c'est 2012 que ça est sorti?
2013, okay. Asmodé. Kit ou double.
Kit ou double.
Asmodé 2013.
Cool, merci.
Et, de rien, écoute, je suis donc, à ton chose. Service, ton humble serviteur.
Ben, si jamais quelqu'un qui a ça en français aussi, je serais intéressé. Je sais pas si ça joue exactement comme le normal, l'original, mais oui, je le veux parce que je veux jouer ça avec mes amis francophones.
Ouais, c'est ça. Ben, en fait, tu peux jouer à version originale avec des francophones. T'as tout simplement besoin. C'est la même personne dans ce jeu-là, tu peux absolument juste traduire la question.
Je le sais.
C'est la seule partie qui est en anglais.
C'est que c'est le fun d'avoir ça comme en vraie version française.
Je suis d'accord avec toi. Moi, mon numéro 3, c'est un vieux jeu, c'est un très vieux jeu, puis je te dirais que c'est probablement le grand-père ou la grand-mère des Stop ou encore, et le jeu s'appelle Can't Stop. C'est un Sid Jackson, n'est-ce pas? Je crois que c'est un Sid Jackson. C'est Can't Stop.
Moi, c'est Jackson Games.
Ouais, c'est ça. C'est Sid Jackson. Sid Saxon, c'est pas Sid Jackson, c'est Sid Saxon.
Sid Saxon.
Oui, pardon, j'ai mal dit ça. Moi, j'ai la version qui est sortie il y a quelques années où on gravit une montagne. En fait, il faut gravir... Il n'y a pas 12 rangées. Il y a combien de rangées là-dedans? On commence de 3 à 12.
C'est 2 à 12, donc il y en a 11.
Il y en a 11, c'est ça, exactement. Donc, il y a 11 rangées dans lesquelles on doit gravir, qu'on peut monter. Et le but, c'est de monter dans 3 colonnes le plus rapidement possible. Les plus longues à monter sont le 6, le 7 et le 8, mais sont aussi les colonnes dans lesquelles il y a le plus de possibilités. Et comment on fonctionne? On va rouler 4 dés et on va choisir deux combinaisons de dés. Donc, on doit absolument prendre deux dés et les un dé et le jumeler à un autre dé. On fait ça deux fois dans le tour et on fait gravir nos petits jetons dans deux colonnes séparées. Je crois que la version originale était basée sur... Le thème, c'était un panneau stop ou arrêt. Et puis, on devait... Donc, le thème, c'était un peu la route et tout ça. Puis, on devait avancer dans trois colonnes comme ça. Moi, la version que j'ai, c'est des alpinistes qui montent dans une montagne. Et je crois que la vieille version avec le stop est revenue un peu là, dans les magasins et tout ça.
Oui.
C'est vraiment un classique. C'est vraiment, vraiment un classique. J'ai probablement des jeux de stop ou encore que j'aime plus que ça, mais je peux pas tasser ce jeu-là de côté parce que c'est tellement facile à expliquer, c'est tellement facile d'y jouer, mais c'est tellement satisfaisant comme jeu que mon numéro 3, c'est Can't Stop.
Ben, je peux pas beaucoup en dire plus parce que tu as tout à fait raison, c'est un bon jeu, puis c'est mon numéro 2, Can't Stop, classé de 775. Moi, j'ai la version avec la signe d'arrêt, là, ou le stop, on dit. Et je préfère le look de ta version à toi. Je pense que j'aimerais échanger ma version pour ta version un jour. Mais dans le temps, on était incapable de trouver une copie. Puis tout d'un coup, on se mettait à la réimprimer. Et ça s'est tout vendu vraiment vite aussi. Donc, j'ai juste pris ce qui m'était disponible. Ça me dérange pas. C'est pas si grave que ça. Mais un jour, je vais changer pour la version alpiniste parce que je trouve ça juste plus le fun thématiquement, quasiment. Il n'y a pas de thème. Mais oui, c'est un jeu incroyablement facile à expliquer, facile à jouer, difficile à gagner, difficile à prendre des décisions, difficile à arrêter. On veut continuer. Puis parfois, on le fait, puis on a de grands avantages à continuer. Mais parfois, on pense, on est sur le 6, 7, 8, puis on pense, oh, je ne vais pas arrêter, c'est 6, 7, 8. C'est clair qu'un de ces chiffres va tomber, puis ça ne tombe pas. Donc, parfois, ça peut être surprenant. C'est vraiment un bon jeu, je l'aime beaucoup. Mon numéro 2, Can't Stop. Je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas.
Honnêtement, ça, c'est le genre de jeu qu'on ça serait tellement facile de se faire une version maison. Tu pourrais juste prendre une feuille de papier, dessiner un peu le plateau, puis trouver des composantes. Si tu as n'importe quel autre jeu où tu as un certain nombre de cubes de quatre couleurs différentes, puis 4 dés, tu peux facilement jouer à ce jeu-là. Évidemment, nous, on est des geeks, donc on est content d'avoir le vrai jeu, mais tu sais, ça serait facilement, par exemple, transportable en voyage. Tu apportes 4 dés, juste des petits cubes de 4 couleurs différentes. Tu en as une douzaine, je pense, que ça prend.
Puis même un tableau blanc. Tu sais, comme...
Ouais, exactement.
Et puis on a chacun une couleur. Puis on a comme genre... On fait une ligne pointillée pour montrer qu'on est actuellement à monter. Puis on enlève si on perd et on rend ça solide si on arrive à avancer. Tu sais, comme...
Ah ouais, très facilement, très facilement.
C'est vraiment facile. 4 dés, puis quelques marqueurs. Même peut-être qu'il y a une manière de faire ça avec juste un marqueur puis avec un système logique, genre, mais oui, c'est vraiment cool.
Ah oh ouais, non, c'est... Ben oui, au lieu de mettre des couleurs, tu peux mettre, par exemple, une forme différente pour chaque
c'est
personne.
Ça. C'est ça. Comme ça.
C'est assez simple, là. C'est vraiment, si vous n'avez pas d'argent, vous voulez jouer un bon jeu, ça joue quand même assez très facilement, puis c'est vraiment un bon jeu. Donc, bon numéro 2, Jake, bon numéro 2.
Merci.
Mais moi, mon numéro 2, c'est King of New York. Et King of New York, c'est une sorte de réimplémentation du jeu King of Tokyo. King of Tokyo, qui est un jeu très simple dans le style, c'est comme si on avait pris Street Fighter ou Mortal Kombat, on l'avait mis dans un jeu de société. Le but, c'est de battre les autres monstres sur le plateau ou d'arriver à 20 points en premier. Dans King of New York, on fait exactement la même chose, sauf que dans le voisinage, dans les quartiers de la ville de New York, il y aura aussi des bâtiments qu'on peut détruire. Et si on détruit ces bâtiments-là, l'armée arrive. Et là, l'armée pourrait attaquer nous ou d'autres monstres. Sinon, on finit par se déplacer dans une autre partie de la ville et qu'un autre monstre arrive dans la partie où on a fait venir l'armée. L'armée pourrait attaquer les autres monstres. Donc, on doit se défendre contre les monstres, contre les autres monstres, mais aussi contre les humains qui sont sur le plateau. Donc, c'est une version un peu plus gamer de King of Tokyo. Et j'ai joué récemment, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas joué à King of New York. Ça, c'est un jeu que j'ai eu pour 5$ à un moment donné. Il y a une fille qui vendait tous les jeux de son ex, je pense. Puis elle vendait tout 5$. Donc, je suis allé acheter ce qu'elle avait à 5$.
Yeesh. Le jeu.
Exactement.
On va pas être là.
Le jeu est encore emballé.
Wow. Wow.
Ouais, c'est ça. Yeah.
C'est un
donc,
bon
King
jeu.
Of New York, mon numéro 2.
Bon jeu. J'aime plus King of Tokyo. Je pense que King of New York, pour moi, ce n'est pas un jeu qui est trop complexe pour moi du tout. Je trouve juste qu'on a ajouté de la complexité pour le rendre plus gamer, mais je trouve qu'on fait ça souvent dans cette industrie. C'est comme, on va rendre ça complexe parce que les gamers vont aimer ça. C'est comme, man, il y a tellement de jeux gamers déjà que parfois la beauté de la simplicité d'un quelque chose qui fonctionnait vraiment bien à la base, je pense pas qu'il faut le changer. Et j'essaie de pas dire que c'est moi qui décide, mais peut-être qu'il y en a qui partagent mon avis que King of Tokyo est tellement plus beau comme jeu, puisque c'est plus juste simple. On joue, on arrête, c'est fini. Si je voulais des décisions supplémentaires, je peux aller ailleurs, tu sais. Mais c'est un bon jeu.
Ouais. Moi, je trouve qu'ils font souvent ça avec des extensions. Je me suis un peu calmé sur les extensions en général parce que je trouve que souvent, les extensions ajoutent pas grand-chose au jeu à part juste de la complexité puis un autre livre de règles que j'ai besoin de lire pour rien parce que j'ai pas plus de plaisir à y jouer. Donc, c'est un peu ça. Mais je comprends un peu je comprends ton argument dans ce cas-là, mais moi, personnellement, j'ai vraiment trouvé que ce jeu-là, c'est ça. J'ai trouvé qu'ils ont fait un bon travail avec ça. Il y a King of Monster Island.
Oh,
c'est
wow.
Ça. Il y a le nouveau King of Monster Island, je pense.
Ah,
je serais curieux de...
On va checker ça.
Ouais.
Moi, je voulais dans le temps, puis je ne l'ai pas acheté, là. Je voulais King of Tokyo Dark Edition. Ça avait l'air tellement cool.
Ouais, c'est le même jeu, par contre. C'est juste.
C'est ça, mais j'ai failli l'acheter parce que c'est quelque chose de différent. Tu sais, tu sors ça, puis...
Ouais, c'est King of Monster Island. Ouais, c'est un nouveau, une nouvelle version un peu de ça. Je suis un peu curieux d'y jouer. Je veux pas vraiment l'acheter, mais si je vais dans un café de jeu puis qu'il est là, j'aimerais l'essayer. Donc, j'ai pas vraiment besoin d'une autre version de jeu.
Non,
là,
c'est
comme,
ça.
Avec ce que j'ai, mais
je commence à arrêter d'acheter juste pour essayer là parce que c'est trop.
Ouais, j'ai fait ça. J'ai trop fait ça dans ma vie.
Il y a un café de jeu pas loin de chez nous là, puis je viens de checker leur menu de jeu pour voir s'ils avaient un jeu que je veux essayer. Ils l'ont pas, donc peut-être que je vais devoir acheter, mais je vais essayer de faire ça plutôt que d'acheter.
Tu peux pas mettre ça sur le groupe de jeux de société là, à Ottawa-Gatineau. Tu dis, si
à
quelqu'un a ça, je me cherche des amis. J'aimerais l'essayer.
Ouais, c'est vrai.
Je sais pas si ça serait populaire, justement, si on commence un groupe Facebook en disant « would like to try », tu sais, comme Games I'd like to try, puis là, comme tu te formes des mini-groupes pour jouer à ces jeux-là.
Puis soit on peut prêter des jeux, ou bien soit on peut au moins présent pendant que les autres l'essayent, genre.
Exactement. Tu peux soit comme t'organiser pour inviter ou aller à un café pour jouer avec ta boîte, ou justement se prêter des jeux entre
gamers. Ouais, c'est une cool idée.
Ouais, je sais pas. Commençons ça, on va faire de l'argent.
Je pense pas qu'ici en Ontario ça fonctionnerait, mais... C'est pas que le monde est froid, mais le monde, ils sont hésitants d'inviter quelqu'un chez eux et tout ça. Là. C'est comme vous autres, vous êtes comme « Hey, mon auto est pas barré, hey, prends mes clés. »
Moi, je pense que le problème avec l'Ontario pour les jeux, c'est qu'il y a des Ontariens.
Oui, mais on est sage, donc c'est bien. Mon numéro 1, je peux pas beaucoup développer là-dessus puisque j'en ai déjà parlé. Ça s'appelle Fugitive. Je ne savais pas quand j'ai choisi à jouer à Fugitive. En fait, c'est pas moi, c'est mon ami du coin qui a suggéré ce jeu. Et je ne savais pas quand j'ai suggéré à lui qu'on fait 800 à 700 que je ne savais pas que Fugitive était classé 782. C'était vraiment juste chanceux. Puis j'ai vu ça, puis j'ai dit « Hey, ça c'est cool, c'est un jeu de la semaine, je vais en parler. » C'est vraiment un bon jeu que j'ai beaucoup aimé. J'essaie de trouver une copie qui n'est pas trop chère, ou au moins peut-être une copie locale pour ne pas devoir payer la livraison. Parce que je pense que j'en ai trouvé une copie à Vancouver ou quelque chose comme ça. Puis j'ai pas envie de payer le shipping. Bon, Fugitive, jeu à deux, uniquement à deux, avec que des cartes. On joue jusqu'à 42 cartes et le fugitif essaie de faire à croire qu'il y a de certains chiffres qui sont placés sur la table face cachée. Et le policier ou la détective essaie de deviner les chiffres. Il y a quelques règles de plus que ça, mais en général, c'est ça. Puis c'est vraiment le fun. Si vous avez cru que c'était difficile ou même impossible d'avoir un jeu de déduction à deux, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai la preuve que Fugitive, c'en est un bon exemple d'un jeu de ce style-là. Donc voilà, mon numéro 1, Fugitive 782.
Excellent! Un jour peut-être. Moi, mon numéro 1, Jake, c'est un jeu à deux. Ton type de jeu préféré, je crois, jeu à deux.
Je pense que c'est une des catégories que j'apprécie le plus parce que le design est tellement comme pointu. Tu comprends que c'est comme tellement spécifiquement à deux. Imagine qu'il y avait un jeu qui était complètement conçu pour à quatre. On ne peut pas jouer à 2, 3, 5, 6. C'est à 4. Je pense que j'aimerais cette catégorie aussi parce que ça rend les designs tellement plus précis.
Ça existe.
C'est quoi?
Ça s'appelle l'amour.
L'amour à 5.
Non, c'est 4.
Ah, oh. Ben peut-être en Nouvelle-Écosse.
Ouais, c'est ça. Donc, ça s'appelle Caper Europe.
Capre.
C'est un jeu qui existait avant Caper, mais j'ai jamais joué à Caper. J'ai vraiment juste joué à Caper Europe. C'est un jeu dans lequel on est des voleurs qui vont essayer d'avoir le meilleur butin possible. On a l'impression de jouer un peu au souk à la corde dans trois tableaux différents et on peut voyager dans quatre villes dans le monde. Plus on avance au niveau des villes, plus la difficulté est élevée. C'est pas extrêmement difficile, mais en gros, on va jouer des cartes une après l'autre et on essaie de faire les meilleures combinaisons possibles pour tirer une sorte de pion qui est dans le milieu de notre côté. Si ça termine de notre côté, ben on peut remporter le butin ou les points bonnie qui sont au milieu de cette partie-là de la ville ou dans cette ville-là. Donc, c'est extrêmement simple quand on y pense, mais c'est tellement un jeu satisfaisant. C'est très, très beau. Moi, j'ai la version de luxe. J'adore ce jeu-là. Je pense que c'est probablement... C'est entre ça et Seven Wonders Duel pour mes jeux à deux préférés.
Mais moi, tous les jeux que tu as, tous tes jeux sont des jeux de luxe.
De luxe tardif.
Voilà. Luxe de luxe.
Luxe de luxe. Les jeux de luxe. Donc Caper Europe. C'est un peu bizarre. Moi, je suis peut-être un peu moins... extatique pour les jeux à deux que toi. J'aime les jeux, en fait. Toi, t'aimes les jeux spécifiquement à deux. Moi, j'aime ça quand les jeux, on est capable de jouer à deux, mais on est aussi capable de jouer à trois ou à quatre. Tu sais, j'adore, par exemple, j'ai joué à Rolling Heights, puis je pense que c'est meilleur à deux. Je pense que c'est meilleur à deux qu'à trois.
Ouais,
mais je suis content de pouvoir jouer à trois.
Je te donne ou je vous donne le défi. Si vous allez nous écrire, parlez-moi de 5 jeux qui jouent à deux, mais aussi à plusieurs, et que c'est mieux ou meilleur que les jeux uniquement à deux. Je dis pas que c'est mon « Oh, il faut que ce soit à deux, juste à deux. » J'adore se jouer à des jeux à 3, à 4, à 5, à 6, à 8, à 10. Je m'en fous de la décompte de joueurs. Mais quand c'est pensé exactement à deux, d'habitude, c'est très équilibré, c'est très clair ce qu'il faut faire. Les décisions restent quand même intéressantes. Mais il y a des jeux qui jouent à trois ou quatre ou cinq qui sont définitivement meilleurs que les jeux à deux. C'est pas ça mon point. Ouais. Mais je serais intéressé de voir, et peut-être c'est une bonne liste, parce que c'est similaire à une liste qu'on a fait déjà, que c'est comme les jeux qui jouent à plusieurs décomptes de joueurs, bien. Mais j'aimerais ça voir un jeu qui peut être joué à cinq, mais que la version à deux est meilleure que les jeux à deux qui sont uniquement à deux. Puis c'est pas tous les jeux à deux qui sont bons non plus.
Je pense que j'ai beaucoup de jeux que je trouve meilleurs à deux que les jeux uniquement à deux.
Il va falloir que tu m'en
parles. Je joue à Terraforming Mars. J'aime plus Terraforming Mars que Seven Wonders Duel ou Caper Europe.
Ouais.
J'aime plus ça.
Okay.
À deux, j'aime plus ça. J'ai joué à Scythe, j'aime plus ça à deux que ces deux jeux-là. Quacks of Quedlinburg, même chose. Les charlatans de Belle Castel, j'aime plus ça à deux que ces jeux-là qui sont.
Je trouve juste que quand tu joues à quelque chose qui est conçu pour 3, 4, 5 joueurs, puis ils ajoutent un 2, souvent ça manque un quelque chose.
Souvent, souvent, mais il y a plein de jeux que non.
Ça serait cool donc. Peut-être même pas comparé à des jeux à deux, mais comparé à eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des jeux qui jouent à plusieurs, puis la meilleure version c'est à deux? Puis oui, il doit en avoir.
Ouais, là, je sais pas si leur meilleure version c'est à deux. Par exemple, moi, j'ai autant de plaisir à jouer à 7 à 2 qu'à 4, personnellement.
Mm-hmm.
Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est meilleur à deux, mais tant que c'est très bon à deux, moi, la vie est belle.
La vie est déjà très belle.
Et voilà, ça c'était mon numéro 1. As-tu des mentions spéciales, Jake?
J'en ai, bien sûr. Paris, la cité de la lumière, c'était à 800. Donc, c'est pas pour ça que je ne l'ai pas inclus. J'ai joué une fois, puis c'était quand même bon. King of New York, Fuse. Fuse, c'est quoi? Même pas peur en français?
Fuse, c'est... Je pense qu'on fait cette chose-là chaque fois. Je pense que c'est pas même pas peur, c'est... Attends, on va le trouver.
Reef, Blocus, Galaxy Trucker, and The Bloody Inn. On a joué à ça, moi et toi, ensemble, Luc, mention spéciale. Puis là,
je dois avouer que je me souviens pas qu'est-ce qu'on faisait là-dedans. Je me souviens avoir joué, je me souviens du visuel, mais je me souviens pas qu'est-ce qu'on faisait du tout dans le jeu.
Moi, un peu, mais pas tant, puis je veux le réessayer parce que je l'ai aimé à la fin. Les jeux auxquels j'aimerais jouer un jour, World Without
Mission
End.
Mission pas possible.
Mission
on
pas
fait tout
possible.
Le temps la même erreur à chaque fois.
C'est
on
vrai,
dit même pas peur,
c'est moi qui le fais en plus.
Non, je l'ai fait moi aussi.
OK. Ben, World Without End, c'est le deuxième jeu dans la série Pilier la Terre. Vast, The Crystal Caverns, K2, Finca, New York Zoo, Caverna, Cave vs. Cave, Dinosaur Island, Roar and Write, Between Two Cities, et la liste continue, j'en passe, parce qu'il y avait beaucoup de jeux dans cette centaine de jeux que je veux essayer un jour. Toi,
d'accord.
As-tu des mentions spéciales?
Même pas peur, en fait, c'est une extension de Small World.
C'est
okay. Ça, c'est une des petites
mini-extensions
de Small World.
Mission
Fuse,
pas possible.
C'est mission pas possible.
Mission pas possible.
Exactement. Moi, si j'ai des mentions spéciales, ben, premièrement, ne jouez jamais à Vast, je déteste. Deuxièmement, j'aimerais beaucoup jouer à Wingspan Asia. Ben, en fait, j'aimerais beaucoup obtenir l'extension pour Wingspan Asia, mais pour le moment, c'est un peu cher. Hein? Donc, c'était quelque chose comme 70-75$ pour juste une extension. Je trouve ça très cher, même si, oui, c'est vrai, il est possible de jouer... C'est un standalone, donc c'est possible d'y jouer sans voir le jeu de base. Dice Hospital, j'ai joué, j'ai apprécié, mais sans plus. Perudo, qui est un jeu extrêmement apprécié de plusieurs joueurs, joueuses, mais personnellement, je trouve que c'est bien, mais sans plus. Blocus, qui est un des meilleurs jeux à être sorti presque exclusivement à la base dans des magasins grande surface. Wits and Wagers, tu l'as mentionné, Between Two Cities et K2 qui est un jeu auquel j'ai joué avec Pyro, dans lequel on gravit une montagne, un sommet. Et j'ai deux jeux qui sont dans ma pile de la honte, Eminent Domain et Detective City of Angels que j'ai et auxquels je n'ai jamais joué. Donc, le problème avec Detective, c'est qu'il faut être au moins 3 pour y jouer. Donc, puis c'est un peu... Il y a une partie là-dedans de Détective où une personne est le meneur ou la meneuse du jeu, puis sait quelque chose que les autres ne savent pas. Donc, c'est vraiment un jeu un peu à la Mysterium où, genre, une personne va être quelque chose et les autres vont jouer un rôle totalement différent dans le jeu. Donc, j'ai l'impression que je serai cette personne lorsque j'y jouerai. Et voilà. Est-ce que vous avez aimé notre liste? Oh! En passant. Stonemaier Games sort bientôt un jeu sur le même thème que Scythe, en fait, qui va s'appeler Expédition, un gros jeu Expédition. J'ai vraiment, vraiment hâte d'essayer ça. En fait, je suis en train de penser faire l'acheter à l'avance là, pour l'avoir directement quand ça sort.
La précommande.
Oui, une précommande, exactement.
Cool.
Exactement.
Ben oui, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce qu'on a manqué des perles rares dans cette centaine de jeux qu'il faut qu'on essaye, puis on n'a même pas listé ça comme une mention spéciale? Dites-le nous, écrivez-nous sur Facebook, Instagram, par courrier, quoi que ce soit. On adore s'entendre de votre part. Et vous nous envoyez vraiment souvent des messages très robustes et détaillés. Donc, c'est vraiment cool, je dois avouer, d'entendre vos mots. C'est pas moi qui fais les sociaux, les réseaux sociaux, c'est vraiment Luc. Donc, il m'en parle après. Puis, c'est vraiment cool. J'apprécie beaucoup, 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 beaucoup.
Oui. Et avant de terminer, j'aimerais juste envoyer nos sympathies. Il y a un créateur de jeu quand même assez connu qui nous a laissé il y a quelque temps. Donc, depuis notre dernier épisode, ça fait quand même un certain temps. Ce n'est pas arrivé hier, mais Serge Laget, créateur de Nidavellir, Cargo Noir, créateur ou co-créateur de Nidavellir, Cargo Noir, comment ça s'appelle, les chevaliers de la, Shadows Over Camelot, les chevaliers de la table ronde, Mystère à l'abbaye, donc des jeux dont on a parlé, Ad Astra et tout ça, donc nos sympathies à la famille de Serge Laget et à toutes celles et ceux qui le connaissaient. Et voilà.
Donc, Luc, as-tu d'autres choses?
Est-ce que j'ai des choses à mentionner?
Oui, as-tu d'autres choses à mentionner avant qu'on parte?
Non, Jake.
Cool.
J'ai absolument rien à dire, comme d'habitude. Mais habituellement, quand j'ai rien à dire, je dis quand même quelque chose.
C'est parfait, ça. Donc, jusqu'à la prochaine fois, c'était Jake.
Et c'était Luc. Et vous avez écouté notre podcast de jeux de société.
Ménage à deux.